Il est 19h sur Europe 1.
Commencer par déprogrammer que des patients dont les interventions chirurgicales ou dont la prise en charge médicale peut être reportée sans qu'il y ait de perte de chance pour accueillir des patients Covid.
20% des opérations chirurgicales reportées à Paris dès ce week-end. Les hôpitaux craignent en effet la saturation.
Un vent de révolte. Les cafetiers et restaurateurs en ont ras-le-bol de payer l'addition. À Marseille, ils réclamaient un sursis de 10 jours. Le gouvernement ne devrait pas leur accorder.
Donald Trump hué alors qu'il se recueillait devant la dépouille de la juge progressiste de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg.
Le Mali aura demain enfin un nouveau président, un faux civil qui cache un vrai militaire, nous dira Didier François.
Et Corinne Boulot, elle, nous dira tout sur le tirage au sort de Roland Garros.
Et puis la tendance météo avec Anissa, beaucoup de pluie au programme demain, c'est réjouissant.
Oui, avec d'ailleurs Julien, un département qui a été placé en vigilance orange, pluie, inondation, il s'agit des Pyrénées-Atlantiques. Et en plus de la pluie, c'est la neige qui arrive demain, je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Et ça fait un moment que l'on dit que les hôpitaux commencent à être sous tension. Confirmation donc cet après-midi avec cette annonce des hôpitaux de Paris.
Oui, la PHP a décidé de prendre les devants pour anticiper l'arrivée de futurs malades du Covid. Anne Le Gall.
Oui, les hôpitaux de Paris vont commencer à reporter certaines opérations chirurgicales dès ce week-end, car le nombre de patients Covid a doublé depuis fin août. En service de réanimation, un lit sur quatre est actuellement occupé par un malade du coronavirus. Ces patients y restent entre 16 et 18 jours. C'est une durée de soins qui a tendance à s'allonger. Face à des chiffres aussi inquiétants, le report des opérations non urgentes sera donc décidé au cas par cas, explique François Crémieux, directeur général adjoint des hôpitaux de Paris, avec une règle essentielle.
Ne commencez par déprogrammer que des patients dont les interventions chirurgicales ou dont la prise en charge médicale peut être reportée sans qu'il y ait de perte de chance. L'enjeu dans les 15 prochains jours est de ne pas avoir en octobre à franchir un troisième palier, qui est celui que nous avons prévu, qui est de passer de 20 à pas loin de 50% de déprogrammation, encore une fois pour pouvoir libérer des lits de soins critiques pour accueillir des patients Covid.
En pratique, ce sont donc des opérations comme la pose de prothèses de hanche, de genoux, les opérations du canal carpien, des ligaments croisés ou encore les opérations de la cataracte qui pourraient être décalées. À la PHP, on espère que ces mesures seront suffisantes pour continuer à accueillir des patients Covid en fin de semaine prochaine.
Merci Anne Le Gall du service Société d'Europe 1. Punition collective, dit la mairie de Paris. Appel à la désobéissance civile à Marseille, absence de concertation partout en France. Les élus jugent sévèrement les nouvelles restrictions annoncées hier par le ministre de la Santé.
Vécu comme un affront, notamment par les Marseillais, qui demandent au gouvernement un sursis de 10 jours, sursis qu'ils n'obtiendront pas, Jean-Rémy Baudot.
Non, pas de report, pas de délai, aucune raison de faire du sur-mesure à Marseille. Malgré la fronde des élus, le gouvernement reste inflexible. La situation est trop grave, glisse-t-on à Matignon. Concerter, ça ne veut pas dire tomber d'accord, a d'ailleurs répondu aujourd'hui le ministre de la Santé, Olivier Véran, depuis le Sénat. Nul doute que Jean Castex sera interrogé sur la question ce soir. Sur France 2, il devra se justifier et surtout justifier la méthode. Car ce bras de fer avec les élus, c'est tout de même un accroc, voire un échec pour la méthode Castex. Depuis sa nomination à Matignon, le Premier ministre a fait de la proximité, de l'écoute, des territoires, du dialogue, de l'adhésion, la pierre angulaire de sa politique. L'entourage du Premier ministre plaide souvent pour ce rééquilibrage. Je cite « Castex veut réconcilier Paris avec les territoires », c'est ce qu'on entend beaucoup à Matignon. Les conseillers de Castex imaginent même qu'écouter le terrain serait la méthode pour lutter contre les frondes locales, lutter même contre les gilets jaunes. Bref, depuis 24 heures, quand on voit la colère qui monte à Marseille, il est clair que le gouvernement a raté son coup.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.
Et la colère qui monte, effectivement, le président de la région PACA, Renaud Muselier, indique à l'instant qu'il va déposer demain un référé contre la fermeture des restaurants à Aix et à Marseille, référé contre tout acte restreignant l'exercice de la liberté d'entreprendre, d'industrie et du commerce de façon disproportionnée, écrit-il ce soir.
Oui, Renaud Muselier qui sera également à la tête d'un rassemblement avec les professionnels du tourisme devant le tribunal de commerce de Marseille.
Et on le disait, Jean Castex, le Premier ministre, aura donc l'occasion de se justifier ce soir puisqu'il est l'invité de l'émission. Vous avez la parole sur France 2.
Le chef du gouvernement attendu au tournant, on l'a dit, notamment par les cafetiers et restaurateurs qui manifestaient cet après-midi à Paris.
Et qui ont symboliquement jeté les clés de leurs établissements. Parmi eux, il y avait notamment Laurent Ribeiro qui tient un bar dans le 11e arrondissement.
On a jeté nos clés pour dire à la mairie, démerdez-vous avec nos établissements, quoi, parce que nous, on ne peut plus rien faire. Je suis un bar, donc on commence un bar de nuit, on commence notre activité à 17h. On la termine à 2h du matin. Et là, on nous sucre 4 heures d'exploitation. Quoi. Voilà, les 4 heures où, globalement, les gens sortent le plus, entre 22 et 2, c'est là où on a le plus de gens. Là, c'est Marseille, il ferme, et Paris, on sent venir le truc, la semaine prochaine, ça va être notre tour. On peut comprendre qu'il y ait une pandémie qui soit très grave. On peut comprendre que nos établissements posent problème. OK, mais dans ces cas-là, protégez-nous, que l'État ou que les mairies, je ne sais pas qui s'occupe de ça, paye nos loyers, que nos charges sociales et fiscales soient prises en charge par l'État, parce que sinon, on ne peut pas.
On ne peut pas, dit ce propriétaire d'un bar parisien dans la manifestation cet après-midi au micro européen de Nicolas Feldman. Suspicion de Covid au procès des attentats de janvier 2015. L'un des prévenus a fait un malaise. Il présente des symptômes qui peuvent faire penser à ceux du Covid-19. L'audience a été suspendue jusqu'à demain matin.
Dans l'actualité également ce soir, c'était l'une des promesses du Grenelle. Pour lutter contre les violences faites aux femmes, le bracelet électronique anti-rapprochement sera mis en place demain.
Oui, ce dispositif vise à tenir éloignées des victimes les conjoints ou ex-conjoints violents.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h07, la suite de votre journal avec Isabelle Millet. On part aux États-Unis avec l'image du jour.
Oui, c'est une image très forte. Hein. Donald Trump hué alors qu'il se recueillait devant le cercueil de la juge progressiste de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg. Vous avez vécu ça en direct puisque vous êtes sur place pour Europe 1, Xavier Yvon.
Oui, Donald Trump est apparu entre les colonnes blanches de la Cour suprême devant le cercueil de la juge Ginsburg et la foule qui attendait son tour dans la rue à côté derrière des barrières s'est mise à huer. A hurler « Dégagez-le par les urnes !» Au milieu des cris, le président américain est resté impassible derrière son masque, une scène incroyable ici à Washington. C'est pour ça que je suis venu, je voulais protester contre lui, explique Nikki avec son panneau « Sauver notre démocratie ». Sa présence ici est une insulte, dit-il. Il ignore totalement le dernier souhait de Ruth Bader Ginsburg. La magistrate a demandé sur son lit de mort en effet à n'être remplacée qu'après l'élection. Respecter son vœu, autre slogan scandé par la foule sous le nez de Donald Trump. Une phrase de ralliement inscrite aussi sur les masques portés par beaucoup d'admirateurs de RBG, comme on l'appelle ici. Mais une incantation qui restera vaine. Donald Trump doit annoncer le nom de la nouvelle juge samedi et il veut qu'elle soit confirmée par le Sénat avant le 3 novembre, date du vote.
Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 en direct de Washington.
La première apparition publique aujourd'hui du président malien désigné pour conduire la transition politique de son pays qui doit théoriquement ramener les civils au pouvoir. On en parle avec notre spécialiste des questions internationales, c'est l'œil de Didier François.
Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Alors le retour des civils à la tête du Mali, c'est la condition pour une levée des sanctions, sauf que vous nous dites ce soir, Didier, eh bien que le nouveau président n'est pas vraiment lui-même un civil. Hein.
Alors techniquement, si, il est civil, puisque c'est un retraité de 70 ans qui n'est donc ni officier d'actif, ni membre de la junte militaire qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta en août dernier. Et du point de vue purement formel, il entre bien dans les critères fixés par les pays de la région qui exigent que la transition au Mali soit confiée à un civil sous peine de sanctions économiques et de blocus commercial. Mais oui, si on regarde de plus près, franchement, c'était difficile de trouver un civil plus kaki que l'ancien colonel-major Bandou qui, avant sa retraite, a servi durant toute sa carrière sous l'uniforme, pilote d'hélicoptère, formé dans les académies militaires russes, puis à l'école de guerre de Paris, chef d'état-major de l'armée de l'air, ministre de la Défense, et puis surtout, aide de camp du président Moussa Traoré, lui-même arrivé au pouvoir par un coup d'État et qui restait 23 ans à la tête du pays. On comprend mieux pourquoi il a été choisi par les militaires pour mener cette transition. Ce n'est certainement pas lui qui va poser des problèmes au colonel Assimi Goïta, le commandant des forces spéciales, qui est le vrai patron de la junte et donc du Mali.
Et la communauté internationale, Didier, accepte ce tour de passe-passe ?
Oui, dès lors que les apparences sont sauvegardées, ça devrait passer, parce qu'en fait, ce que veulent véritablement les pays de la région, c'est préserver une certaine forme de stabilité au cours de la transition politique, qui va quand même durer au moins 18 mois. Et leur calcul, c'est que l'armée malienne reste l'institution la plus solide du pays, malgré ses fragilités. D'autant que la seule alternative, c'était de transférer le pouvoir à l'imam Mahmoud Diko, dirigeant islamiste extrêmement influent, très populaire, mais qui propose d'ouvrir des négociations avec les groupes djihadistes. Or ça, c'est une perspective qui inquiète terriblement la communauté internationale et les voisins du Mali.
L'œil de Didier François, c'est tous les soirs à partir de 19h dans le journal.
On passe au sport et en général, quand on nous annonce le tirage au sort de Roland-Garros, ça sent bon le printemps, sauf que là, ça sent vraiment l'automne. Hein.
C'est dans un climat humide, effectivement, une ambiance morose avec beaucoup d'incertitudes autour des mesures sanitaires que s'est déroulé ce tirage au sort tout à l'heure sous vos yeux, Corinne Boulou.
Oui, et le match phare qui retiendra l'attention du premier tour de ce Roland-Garros si particulier, eh bien c'est celui qui opposera le Suisse Stan Wawrinka, 17e mondial, au Britannique Andy Murray, retombé au 111e rang mondial après une opération à la hanche il y a 3 ans. C'était une affiche de demi-finale. Alors, premier tour à leur main pour le numéro 1 mondial Novak Djokovic face au jeune Suédois Imer, et pour le tenant du titre, Rafael Nadal, qui s'entraîne actuellement sous mes yeux sur le court Philippe Chatrier et sous un toit. Il sera opposé à l'Espagnol Biélorusse Gerasimov. Le finaliste de l'an passé, Dominic Thiem, vainqueur il y a 15 jours de l'US Open, pourrait retrouver cette fois Nadal en demi-finale. Le numéro 1 français, Gaël Monfils, en recherche de sensations, aura lui un bon test au premier tour face au Kazakh Bublik. Richard Gasquet n'aura pas la partie facile face à l'Espagnol Bautista Agut. Chez les femmes, il y aura une confrontation tricolore au premier tour entre l'expérimentée Alizé Cornet et la jeune Chloé Paquet. L'américaine Serena Williams commencera sa quête d'un 24e trophée en Grand Chelem face à une compatriote, et elle se trouve dans la même moitié de tableau que la tête de série numéro 1, la Roumaine Alep.
On ne sait pas s'il y aura beaucoup de public dans les tribunes. En tout cas, on suivra ça avec beaucoup de plaisir et d'attention grâce à vous, Corinne Boulouf.
C'était le journal d'Isabelle Millet. Merci Isabelle, à demain. La météo avec Anissa à 19h12. Frais et agité demain au programme.
C'est résumé, la journée de demain, effectivement. On va finir la semaine avec une journée très agitée, même dans certaines régions, avec pour le département des Pyrénées-Atlantiques, plus qu'agité, puisqu'une vigilance orange pluie-inondation a été émise par Météo France pour ce soir et toute la journée de demain. C'est encore dans le sud-ouest, demain matin, que les orages seront les plus nombreux, avec également en Corse des orages assez violents. Toute la journée, le ciel est gris, avec dans l'après-midi de plus en plus d'averses, parfois même des pluies soutenues. Toutes les régions seront touchées par ces averses. Le vent souffle également toujours très fort demain sur la moitié sud du pays et sur le quart nord-ouest, sur la façade atlantique également, avec des rafales de vent jusqu'à 130 km/h. La neige arrive, je vous en parle depuis 18h, mais c'est un petit événement quand même, puisqu'il neige sur les Alpes et les Pyrénées à partir de 1500 mètres d'altitude. Les températures...
La neige fin septembre.
Et ouais, exactement, il y a une semaine, c'était l'été indien. Les températures, elles sont encore plus fraîches demain, avec 10 à 23 degrés dans l'après-midi, c'est vraiment pas chaud. 10 degrés à Aurillac pour la minimale, 14 à Paris, 16 à Toulouse et Cherbourg, 21 degrés à Marseille et 24 du côté de Bastia pour la maximale.
Bien, la suite demain. Merci Anissa.